balade au cœur du village de l'Escale. Chris Alessandri.
Brigitte Bourg, adjointe à la mairie de l'Escale. À présent, nous changeons de chapitre. Nous sommes dans quelle classe ?
Alors, nous sommes dans la classe de Florence, la classe des CM1, qui ont travaillé sur le patrimoine de la commune de l'Escale.
Florence Larocque, vous êtes professeure des écoles. Petite présentation sur la classe qui est autour de nous.
Bon, bah écoutez, alors nous sommes une classe de CM1, nous sommes 22 élèves. Nous avons visité tout le village pour essayer de trouver de quelle partie nous allions parler, pour justement parler des trésors de ce village. Nous sommes montés au Vieil Escale, nous avons passé toute une après-midi et nous avons choisi donc le Vieil Escale et en passant devant l'ancienne mairie, nous avons aperçu qu'il y avait une plaque. Nous nous sommes interrogés sur cette plaque. Nous avons été très curieux, nous avons cherché sur Internet ce qu'elle pouvait représenter et donc nous avons rédigé de nombreuses questions à ce sujet.
Balade au cœur du village de l'Escale, Chris Alessandri.
Je m'appelle Louis. Le Vieil Escale, de quelle époque date-t-il ?
Donc, le Vieil Escale, je vais vous parler du Vieil Escale. Je suis Colette Chauvin de l'Association du patrimoine escalais. Je suis accompagnée de Jean-Pierre Bernard, qui fait aussi partie de l'Association du patrimoine escalais. Et on va essayer de répondre à toutes vos questions. La première question, c'était donc le Vieil Escale, depuis quand il existe? Il semblerait qu'il existe depuis le haut Moyen-Âge, c'est-à-dire vers l'an 500-600. On l'appelle aussi, et on oublie souvent, on l'appelle aussi Vierre, qui veut dire vieille ville, parce que quand vous avez pris la montée pour aller justement au Vieil Escale, il y a un panneau, il y a écrit montée de Vierre, donc il faut savoir où on va au vieux village.
Je m'appelle Emma. Et quand le village a-t-il été abandonné ? Pourquoi ?
Alors, le vieux village a été abandonné à la fin du 19e siècle, vers les années 1880-1890. Et parce qu'il n'était plus nécessaire à ce moment-là d'être perché pour voir arriver éventuellement des ennemis. Et puis, c'était plus facile de cultiver dans la plaine. Et il fallait aussi de l'eau pour alimenter les maisons. Donc, pourquoi il était plus nécessaire de se protéger des ennemis ? Parce que juste avant, il y a eu des attaques. Et on pense d'ailleurs que c'était les habitants du Bourguet, c'est-à-dire les derniers qui restaient au port gallo-romain, qui étaient montés sur la colline au moment où c'était nécessaire de se défendre.
Je m'appelle Nicolas. Et combien de personnes y vivaient ?
Alors, on peut supposer qu'il y avait environ une centaine de personnes en fonction du nombre de maisons. Au recensement de 1851, c'est-à-dire il y a 170 ans à peu près, il restait 13 personnes. Le dernier enterrement a eu lieu en 1903, il me semble, parce qu'il y avait un petit cimetière.
Je m'appelle Maëlle. Y avait-il un château ? Si oui, qui l'a habité ?
Alors il y avait un château. Au départ, c'était sur le sommet le plus haut de l'endroit où vous êtes allé, et ça s'appelait une motte castrale, c'est-à-dire un château très rudimentaire, quelque chose de tout petit, mais avec un fossé autour, comme les châteaux forts. On en est sûr parce qu'on avait fait venir un archéologue qui avait retrouvé, lui, l'endroit du fossé. Après, il y a eu un château entouré de remparts pour se protéger des attaques. Et pour dire qui est-ce qui y habitait, ben des seigneurs sur des centaines d'années, il y en a eu plein. Moi, je peux juste te dire le nom des derniers. Les derniers seigneurs, il y en a un qui s'appelait Charles de Trémont, Jean de Matheron et puis Dame Feutrier. Parce que quand le seigneur était mort, la dame devenait seigneur, si on peut dire. Voilà.
Bonjour, je m'appelle Ethanaël. À quoi servait la calade près du cimetière ?
Alors, la calade qui se trouve près du cimetière, c'est-à-dire une place plate et équipée de pierres très serrées pour faire un endroit bien utile pour faire des travaux ou autre. Cette calade servait à fouler les céréales. D'ailleurs, il y en a une à côté du cimetière, c'est-à-dire elle est plein sud, et il y en a une à l'autre bout du village, plein nord. Selon le vent, selon que ce soit le mistral ou le marin, on pouvait fouler d'un côté comme de l'autre. Et fouler, ça veut dire écraser les céréales pour faire sortir le grain. Et on les situe en général au vent pour que la poussière s'en aille plus facilement pour après avoir du grain plus propre.
Je m'appelle Chloé. Nous avons vu une fondation de forme arrondie. S'agit-il d'une tour de guet ?
Alors, on s'est posé des questions quand on a trouvé cette fondation de forme arrondie. Donc là aussi, on a fait venir un archéologue. Alors, il nous a dit que la première supposition, effectivement, c'était une tour de guet, vu là où c'est placé, vraiment en bord de village, ça regarde en face, ça regarde toute la Durance, mais il n'en était pas vraiment sûr. On a pensé aussi à un moulin, mais c'est un peu petit, à un puits rebouché, parce qu'il y a une source juste à côté. En fait, on ne sait pas.
Bonjour, je m'appelle Mathis. Ma question est, est-ce que le village s'est défendu contre les envahisseurs ?
Alors, on pense que oui, au XVIe siècle, les villages étaient obligés de se défendre parce qu'il y avait des guerres de religion. Et par exemple, en 1567, m'a dit Jean-Pierre, qui a fait aussi des recherches, les protestants ont assailli le village de l'Escale et ils ont rasé le château. Donc c'est vrai que ces villages perchés servaient à, entre villages voisins, à communiquer quand l'ennemi arrivait parce qu'il y avait des attaques. Il n'y avait pas que des attaques de religion, il y avait aussi des bandes de brigands, il y avait aussi des autres villages qui voulaient prendre des territoires, donc effectivement il y avait des attaques.
Et je reprends des textes que j'ai lus. On dit à l'époque que toute la province était réduite sous le service du roi, hormis Seine et l'Escale, qui étaient de difficiles situations. Ça veut dire que c'était quand même important à l'époque.
Bonjour, je m'appelle Liam. Si oui, lesquels ?
Les envahisseurs, ça pouvait être donc des territoires voisins qui voulaient agrandir leur territoire. Ça pouvait être au moment des guerres de religion, des guerres entre religions, justement. Donc, ils voulaient convaincre, ceux qui arrivaient voulaient convaincre ceux de ce village de prendre leur religion. Voilà.
En fait, il y a eu des guerres de religion extrêmement importantes ici. Et Sisteron a été pris, repris par les protestants. Il y a eu des massacres assez importants. Et l'Escale a fait pareil. Le château a été repris et ensuite il a été refortifié justement pour se défendre contre les envahisseurs. Ça, c'était pendant les guerres de religion où ça a le plus cogné.
Je m'appelle Annaëline. Pourquoi n'a-t-il pas été restauré ?
Alors, le village n'a pas été restauré parce que les gens étaient partis, donc ce n'était plus utile. Pour y habiter, ce n'est pas pratique. Le chemin est difficile. Le terrain autour pour cultiver, il n'est pas riche. C'est plus facile de cultiver dans la plaine, en dessous de l'Escale, que dans la côte. Mais par contre, l'association du patrimoine s'est occupée de nettoyer les calades. C'est comme ça que vous avez pu voir la calade. De réparer des murs qui risquaient de tomber et de rendre les chemins praticables. Et la mairie a beaucoup aidé dans ses travaux à sécuriser les murs qui risquaient aussi de tomber, a mis des grilles aux caves que vous avez peut-être pu apercevoir. Il y a des caves, il y a des cuves où on stockait le vin, et ça c'était assez dangereux. Donc la mairie a fait poser des grilles et puis aussi des barrières aux endroits dangereux au bord des murs. Donc pour le peu de restaurations qui ont été faites au vieux village de l'Escale, à Vierre, ça a été fait avec l'association du patrimoine et la municipalité.
Je m'appelle Annaëline. On m'a raconté qu'il y avait des tunnels qui reliaient les villages de l'Escale à Volonne, de Volonne à Château et de Château à Volonne.
Alors c'est vrai que dans tous les villages, on entend cette histoire et surtout on dit qu'il y a des tunnels, des passages souterrains qui relient les châteaux d'un à l'autre. Il semblerait que ce soit plutôt des légendes. En tout cas, personne n'a réussi à trouver l'entrée et la sortie, et encore moins à y passer dedans. Donc peut-être qu'un jour, on trouvera quelque chose, peut-être que ce n'est pas qu'une légende, peut-être qu'il y a eu des essais de faire ces tunnels pour passer d'un château à l'autre quand il y avait du danger, tout ça. Mais ça, on n'a pas les preuves, on ne le sait pas.
Cela étant, je pense qu'il faut faire très attention, Parce que s'il y avait une amorce de tunnel, de pas trop y rentrer dedans, pour pas que ça, parce que ça pourrait être très dangereux. Hein. Alors, une grosse prudence surtout.
Il y avait-il des écoles ?
C'est une bonne question, mais malheureusement, on n'a pas la réponse. On ne sait pas.
On n'a pas de réponse à la question sur les écoles, mais il faut dire aussi que donc le village, le vieux village était tout petit, il y avait très peu de monde, mais l'escale, c'est un village particulier parce qu'il est composé de plusieurs hameaux. Et donc, vous habitez bien, enfin pardon, vous êtes bien à l'école des hameaux, c'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'il y a une école au centre de tous ces hameaux, entre les deux qui restent maintenant les plus importants, le hameau des Cléments et le hameau de Lotte, mais l'école regroupe tous les hameaux. On peut penser que c'était comme ça et que comme il y avait encore moins d'habitants et que les enfants à ce moment-là marchaient beaucoup à pied, ils venaient de tous les hameaux à une école, ou peut-être deux, mais plutôt concentrés au milieu des hameaux.
Je m'appelle Lilian. Nous allons changer de sujet. Nous allons maintenant parler de la plaque. Aux Républicains insurgés contre le coup d'État du 2 décembre 1851.
Je m'appelle Lohan. Nous avons été très curieux et nous nous sommes informés sur Internet sur Louis-Napoléon Bonaparte.
Je m'appelle Marie. Qui étaient les personnes dont les noms figurent sur la plaque ?
Alors, pour vous répondre à qui étaient les personnes dont les noms figurent sur la plaque, je vais parler au nom d'une autre association. Il existe une association qui s'appelle 1851 pour la mémoire des résistances républicaines. Et cette association a travaillé sur toutes les personnes qui sont concernées comme celles de l'escale qui sont marquées sur la plaque. Alors, les personnes qui sont, dont les noms figurent sur la plaque, sont des escalés, des habitants de l'escale en 1851.
Je m'appelle Maëlie. Ces hommes ont-ils été tués ? Où et à quelle occasion ? Manifestation, bataille ou autre ?
Alors, les hommes qui sont marqués sur la plaque de l'escale n'ont pas été tués, mais ils ont été arrêtés et ils ont été jugés. Ils ont été arrêtés parce que, en 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, que vous avez cherché, m'a-t-on dit, était président de la République. Mais, suivant la Constitution française, il n'avait pas le droit de se représenter pour un deuxième mandat. Et il n'était pas content du tout, donc il a trouvé la solution de faire un coup d'État. C'est-à-dire de se servir de l'armée pour bafouer la loi, pour aller contre la loi qui existait. Donc, il a fait arrêter tous les députés républicains pour pas qu'ils se révoltent à Paris. Il ne s'attendait pas à ce que, loin de Paris, dans les basses Alpes qui sont devenues les Alpes de Haute-Provence, mais dans plein d'autres départements, les gens ne soient pas contents. Les gens voulaient rester en République et ne voulaient pas qu'ils soient réélus une deuxième fois parce qu'ils savaient très bien que s'il était réélu, il voulait devenir comme son oncle empereur. Très bien. Donc voilà. Alors, quand il a vu que des départements comme les Alpes d'Haute-Provence, à ce moment-là, Basses Alpes, se soulevaient, il a envoyé l'armée. Donc, dans chaque village, les gens se sont mis en marche pour aller vers la préfecture, pour prendre la préfecture, pour garder la République, parce que la préfecture est le symbole de la République. Et à ce moment-là, l'armée de Napoléon, de Louis-Napoléon Bonaparte, est venue pour arrêter ces républicains. Elle arrivait par Marseille parce qu'il y avait un gros contingent là-bas. L'armée a rencontré les républicains basalpins. Ils ont été poursuivis. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Sur les 10 000 républicains en marche, il y a eu 1669 arrestations, il me semble. Donc, ils ont été jugés comme ça, sans tribunal, sans avocat, ni rien du tout. Et les noms que vous avez sur la plaque de l'escale, ce sont les escalés qui ont été arrêtés, jugés et condamnés.
À quelle peine ont-ils été condamnés ?
Alors, il y avait plusieurs sortes de peines selon l'importance qui était jugée par rapport à leur engagement dans ce mouvement républicain. Il y en a qui ont été condamnés seulement à de la surveillance, c'est-à-dire rester chez eux. Les gendarmes passaient de temps en temps pour voir s'ils n'avaient pas bougé. Il y en a qui ont été condamnés à du déplacement dans d'autres départements. Après, il y a eu des peines plus sévères. Il y a eu condamnés à la déportation en Algérie, 5 ans. En Algérie, 10 ans. Et pour les chefs, au bagne, à Cayenne, en Guyane, c'est-à-dire de l'autre côté de l'océan Atlantique. Le principal chef a été donc condamné là-bas et est mort tout de suite parce que les conditions étaient très, très dures. À l'escale, on a deux condamnés assez importants, dont un qui s'appelait Jean-François Ayot et qui avait été condamné à la transportation en Algérie. Et il a été gracié en 1855, parce qu'après, il y a eu une période de grâce quand même pour Louis-Napoléon Bonaparte a essayé d'apaiser l'ambiance pour pouvoir continuer à faire ce qu'il voulait faire.
Je m'appelle Lucas, mais que s'est-il passé après cet événement pour les autres républicains ?
Pour les autres républicains, ils ont été tous plus ou moins surveillés, donc... Ils ont été obligés de faire semblant de ne pas avoir été engagés. Ils se sont tenus extrêmement tranquilles parce qu'ils avaient vu les conséquences sur les principaux arrêtés. Par exemple, à certains, on avait pris leur propriété, elles avaient été vendues aux enchères et donc ils n'avaient plus rien. Et puis pour tous ceux qui étaient loin, il n'y avait plus d'hommes à la maison pour le travail agricole qui était essentiel à ce moment-là. Donc tout le monde s'est tenu assez tranquille pendant tout... la période où Louis-Napoléon Bonaparte, devenu empereur, a été au pouvoir dans le pays.
Bonjour, je m'appelle Lina. Après ce coup d'État, qu'a fait Louis-Napoléon Bonaparte ?
Après ce coup d'État, Louis-Napoléon Bonaparte, l'année d'après, est devenu empereur, comme il le souhaitait. Donc, c'est vrai que les libertés ont été restreintes, mais il s'est quand même passé de grandes choses à ce moment-là. Lui, au niveau de l'industrie, au niveau des arrangements des villes, au niveau de... Il y a eu des progrès, c'était une période de progrès au XIXe siècle. Donc, empereur, pas empereur, il s'est quand même passé beaucoup de choses. Et Napoléon Bonaparte, empereur, a terminé... si on peut dire son règne par il a perdu une bataille à Sedan contre les Prussiens et voilà son empire s'est arrêté à ce moment-là et après la République est revenue.
Bonjour, je m'appelle Nolan. Pourquoi le village s'appelle l'Escale ?
Alors, l'Escale, on a deux suppositions sur le nom du village. Est-ce que ça s'appelle l'Escale parce que c'est une escale au bord de la Durance, sachant qu'il y avait un port au bord de la Durance et qu'il y avait du commerce sur la Durance ? Donc, ça peut être une escale, un endroit où on s'arrête, comme quand on fait des escales en bateau au bord de la mer. Ou alors... Comme après le village était perché et que c'était très pentu pour y aller, c'était comme s'il fallait une échelle. Et d'ailleurs, les armoiries de l'escale sont représentées par une tour et une échelle. Donc échelle, escale, on escalade, on monte. Voilà, c'est des suppositions. On n'a pas vraiment de réponse très précise.
Je m'appelle Mathis et est-ce que les gens étaient bien nourris ? Est-ce qu'ils arrivaient à avoir de la nourriture correctement ?
C'est une question un petit peu compliquée là. Je pense qu'il y a dû avoir des famines, comme partout, mais répondre précisément sur les habitants de Vierre, est-ce qu'ils ont subi la famine ? Je ne sais pas.
On ne peut pas dire s'il y a eu vraiment des famines à l'escale plus qu'ailleurs, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, d'abord, la population était formée essentiellement d'agriculteurs. Ils avaient de toutes petites propriétés et ils se nourrissaient de ce qu'ils produisaient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils avaient des tout petits champs de céréales, ils avaient 3-4 moutons, ils avaient 2 ou 3 poules, ils avaient donc des œufs, ils avaient un tout petit jardin, voilà. Donc, et ils avaient moins d'exigences sur la nourriture et de besoins que ce qu'on a aujourd'hui. Et ils avaient même le lait de leurs animaux. Voilà.
Bon, moi, je voulais quand même dire que j'ai été étonné par la pertinence des questions, par l'envie de savoir de ces élèves. C'est fabuleux. Et ça augure bien de la suite. Et moi, je vous dis bravo à tous. Vous êtes formidables. Hein. Bravo et bravo à la maîtresse aussi. Hein.
Balade au cœur du village de l'Escale. Chris Alessandri.
Florence, derrière tout ça, il y a eu un énorme travail de recherche, de concentration, de discipline également que vous avez su insuffler aux élèves qui sont là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce travail que vous avez réalisé ?
Ils ont toujours été intéressés, intéressants. Ils ont voulu en savoir plus. Donc, on a des élèves qui se sont renseignés tout seuls, des élèves qui ont demandé à d'autres personnes et... Donc, avec tout ce que nous avons récolté aujourd'hui, nous allons faire un petit résumé pour que ça puisse apparaître sur un dépliant qui s'appellera Les Trésors de mon village. Et nous, on s'appuiera évidemment sur ce que Colette et Jean-Pierre nous ont raconté pour le rédiger. Et en tout cas, on les remercie tous les deux de bien avoir voulu répondre à nos questions. Merci.
Balade au cœur du village de l'Escale. Chris Alessandri.